Chapitre 31. Jane déballa la seringue et prépara le cathéter. Puis elle serra le garrot de caoutchouc autour du bras de son prisonnier, au niveau du biceps, et chercha du doigt une veine. Elle déchira l'emballage de la lingette stérile, en tamponna la saignée de Booth. Ce dernier n'était plus le même depuis qu'il avait compris le sort qu'elle lui réservait, à en juger par les sons suppliants qui s'échappaient de sa gorge. Ses doigts s'agitaient désespérément malgré la présence des sangles. On aurait dit un mendiant quémandant une piécette. Des yeux, il supplia la jeune femme de l'épargner, implorant une miséricorde que lui-même s'était toujours refusé à accorder à ses victimes. Les gémissements qui s'échappaient du bâillon étaient aussi pitoyables que les jappements d'un chien blessé. Gilberto s'approcha. « Je m'en charge ?» proposait-il. « J'ai reçu la formation nécessaire. » « Non, pas toi, » murmura Jane. « La responsabilité m'en incombe seule. » Alors qu'elle remplissait la seringue avec le contenu de la première ampoule, Hendrickson laissa échapper des cris aigus d'enfants apeurés, perdus au fond des bois. Prise d'une hésitation, elle fut parcourue d'un frisson, comme si une présence invisible et glacée l'avait traversée furtivement. Le cœur humain est facilement trompeur. Celui de Jane ne faisait pas exception à la règle. Deux raisons seulement lui donnaient la force de poursuivre la mission périlleuse dans laquelle elle s'était embarquée. L'amour de son fils et de son défunt mari d'une part, de l'autre, la conviction que le seul moyen de voir le bien triompher était encore de résister au mal. La tentation était forte, pourtant, de combattre le mal par le mal, au risque de s'abaisser à recourir à ce qu'elle rejetait de toutes ses forces. Elle n'aurait pas su dire si son cœur était davantage assoiffé de justice que de vengeance. Mais elle savait qu'en se mentant à elle-même, elle courait le risque de perdre son âme. Elle devait son intégrité à la certitude que l'amour voué à Nick et Travis était plus fort que sa haine de Hendrickson et de ses alliés. Seul l'amour pouvait tuer chez elle le virus du mal. Elle entendit résonner dans sa tête la voix de Monsieur Droughi lorsqu'il lui avait téléphoné au mois de janvier. « On pourrait envoyer ce mioche dans un trou du cul du tiers-monde pour le plaisir, le livrer à Daesh ou Boko Haram, qui s'y connaissent en esclaves sexuels. Certains de ces salopards adorent autant les petits garçons que les petites filles. Si ça se trouve, ils se le partageront jusqu'à ses 10 ou 11 ans, avant qu'un de ces barbares finisse par se lasser et décide de couper sa jolie petite tête. Personnellement, vous me plaisez plus que votre fils, mais je n'hésiterai pas un instant à vous expédier avec lui pour que les cinglés de Boko Haram qui sont à voile et à vapeur vous prennent en sandwich. Mêlez-vous de vos affaires et tout ira bien. » Elle releva la tête et croisa le regard vert pâle du prisonnier. « Que ça plaise au diable ou non, ce sont mes affaires. » Ce n'était pas un péché véniel de priver un être humain de son libre arbitre, même si l'intéressé se croyait autorisé à décérébrer ses semblables au nom d'une utopie. Mais le sort en était jeté, et elle lui inocula le contenu de la première ampoule avant de passer à la deuxième. Comme crier ne serait plus d'aucune utilité à Booth, mais aussi parce qu'elle se sentait l'obligation de vraiment voir son visage au moment où elle le réduirait de son état d'homme à celui de marionnette, même au prix des malédictions qu'il pourrait prononcer à son encontre, elle arracha le scotch qui muselait sa bouche et le laissa recracher le tampon de gaz qui le bâillonnait. Booth ne la maudit pas, pas plus qu'il ne prononça une parole. Il ne pleura même pas. Au moment d'enfoncer le piston de la seringue chargée de la troisième dose, elle observa une nouvelle fois son prisonnier. Il semblait horrifié et abattu. Mais un changement se produisit soudain sur son visage. Ses yeux se remplirent d'un mélange de crainte et d'admiration, comme si, au lieu de voir une veuve décidée à sauver à tout prix la vie de son enfant, il avait affaire à une déesse aborigène sauvage, incarnant le pouvoir absolu et le mystère. contre toute attente, l'épreuve que subissait Bous se métamorphosait en délivrance. Sa soif de pouvoir, faute d'être étanchée un jour, trouvait un exutoire dans l'expression de sa soumission soudaine. Son désir brûlant de voir les autres se prosterner devant lui ne trahissait plus alors que son envie profonde de prêter allégeance à une force suzeraine. Secouée par un nouveau frisson, Jane sut que ce tremblement fiévreux glacerait longtemps ses os.